Ils sont quand même gonflés, ces 10 apôtres, qui feignent d'être scandalisés suite à la question posée par Jacques et Jean, qui réclament le privilège de siéger aux places d'honneur dans sa gloire. Je dis qu'ils sont gonflés puisque cette question d'être le plus grand les habite eux aussi. D'ailleurs, jusqu'à la veille de la mort de Jésus, c'est un sujet de conversation. Vous irez voir au 22e chapitre de Luc. Alors que nous sommes en pleine scène, moment d'une intensité dramatique qui précède juste la passion, ils s'acharnent à savoir qui est le plus grand. Alors oui, dénoncer les autres avec ardeur cache souvent une manœuvre de dissimulation peu avouable. Il est toujours préférable que d'autres que nous se voient pointer du doigt, même et surtout si le mal dénoncé avec empressement et une indignation de façade nous concerne tout autant qu'eux. Alors aujourd'hui, la question des 2 disciples, Jacques et Jean, paraît tout de même d'une complète incongruité, pour ne pas dire d'une énorme grossièreté. Elle intervient en effet alors que tous viennent d'être décrits comme effrayés face aux déclarations faites par Jésus qui leur a annoncé pour la 3e fois sa passion inéluctable. Est-ce vraiment le moment de présenter une telle demande ? D'ailleurs, existe-t-il un moment pour formuler pareille exigence ? Pour qu'une telle préoccupation se fasse jour ainsi sans la moindre honte et de manière aussi récurrente ? Il faut croire qu'elle habite profondément le cœur humain et donc peut-être aussi le nôtre. On ne peut manquer de remarquer qu'elle dénote une posture un peu puérile, car c'est bien le propre de l'enfant encore en chemin vers la vie adulte de chercher constamment à capter l'attention et à se prendre pour le centre du monde. Jésus, lui, dans une attitude remarquable, une attitude constante chez lui, accepte tout d'abord de se prêter au jeu de la question de Jacques et Jean. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Comme tant de fois, Jésus ne les rejette pas a priori, mais il va profiter de l'incident pour dispenser une nouvelle leçon à ses apôtres. Remarquons au passage la grande liberté intérieure de Jésus qui ne se laisse jamais manœuvrer par les questions biaisées des hommes. C'est d'ailleurs sans doute ici qu'il faut rechercher la réponse à ce que nous appelons un peu vite les prétendues prières non exaucées de Dieu. À nous aussi, Jésus pourrait déclarer « Mais vraiment, vous ne savez pas ce que vous demandez. » Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus choisit délibérément de ne pas offrir de réponse positive à une mauvaise demande, même quand il s'agit de service. Regardez Marthe qui se plaint de sa sœur Marie et qui tente vainement d'entraîner Jésus de son côté. « Cela ne te fait rien, Seigneur. » « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. » Ou encore avec cet homme qui, du milieu de la foule, interpelle Jésus pour lui demander d'intervenir dans une querelle l'opposant à son frère pour une question de partage d'héritage. « Qui donc m'a établi pour être votre juge ?» À nos oreilles, il nous paraît donc évident que Jésus ne pouvait aucunement entrer dans leur jeu déviant. Mais pourquoi sommes-nous si lents à comprendre lorsqu'il s'agit de nous-mêmes ? Ce manque de profondeur intérieure, nous le voyons aussi dans la réponse hâtive des 2 frères, tellement occupés à obtenir ce qu'ils demandent. Ont-ils vraiment bien compris ce que Jésus leur dit quand il les interroge ? Pouvez-vous boire à ma coupe ? Jésus parle alors de son baptême, et il s'agit d'un baptême de sang, celui redoutable, sa passion. Nous les voyons répondre sans sourciller un instant et presque distraitement. Oui, nous le pouvons. Savent-ils vraiment ce qu'ils disent ? Le siège à gauche et à droite de Jésus, ce seront les 2 larrons qui les occuperont sur la croix. Alors, en cette heure, leur cœur paraît totalement insensible à ce dont il s'agit, comme s'ils parlaient d'un sujet tout à fait banal et d'une évidence sans importance. Quelle insolence, quel mépris face à la vérité, face au sacrifice que Jésus s'apprête à vivre. Combien notre cœur peut être rendu de pierre lorsqu'il cède à ces passions qui l'aveuglent. Quelle impertinence blessante. Jésus va donc profiter de leurs demandes totalement déplacées pour les faire avancer. Et il se donne alors en exemple, en décrivant ce qui est et ce qui sera toujours la seule primauté digne de l'Évangile. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour les multitudes. Pas de romantisme, pas d'échappatoire. Qui veut le suivre n'a qu'un seul chemin, celui du service. Jésus prend soin d'ailleurs d'expliciter sans équivoque ce verbe « servir », au cas où nous aurions l'esprit un peu dans le brouillard. Servir, c'est-à-dire ni plus ni moins donner sa vie, et cela sans condition ni limite de temps, d'espace ou d'intensité. Et Jésus voit plus loin que nous-mêmes, plus loin que nos pauvres demandes, plus loin que la demande de Jacques et Jean. Il voit notre véritable désir niché au fond de notre cœur. Mais il voit aussi plus loin dans le temps. Et il voit déjà Jacques finir martyr. Et il voit Jean déjà exilé à Patmos au nom de l'Évangile. Pour nous, cela représente quelque chose de très concret, le service. Et nous comprenons que la façon la plus vraie de donner sa vie, c'est peut-être de donner son temps. Car le temps, ce n'est pas une propriété. Nous ne pouvons pas posséder le temps, mais c'est un don reçu de Dieu dont nous sommes juste les dépositaires. S'agit-il d'offrir ce temps qui nous vient de Dieu aux autres, finalement ? Finalement, nous rendons à Dieu, à travers le service, ce que nous avons reçu de lui. Ce service, appelé à être vécu, comme pour Jésus lui-même, en toute liberté d'esprit, selon la belle formule de la prière sur les offrandes que nous entendrons tout à l'heure. Ce service consiste donc à nous effacer devant l'autre. Il s'agit bien, comme dit l'oraison du début de la messe, de servir la gloire de Dieu et non pas la nôtre. D'un cœur sans partage, ce qui signifie sans calcul, sans regret. D'ailleurs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, reconnaissons que l'expérience du service est certes exigeante, mais elle nous donne le fruit de la joie, une joie inégalée et inégalable. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous démarrons la semaine missionnaire internationale. Le synode aussi sur la synodalité démarre. Alors, demandons au Seigneur de purifier nos demandes afin d'avoir un cœur libre et généreux pour le service de nos frères. Ayons peut-être pour cette semaine missionnaire une vigilance accrue dans notre sens du service. Amen.